accent d'Europe, Alexis Bédu.
Bonjour à tous. Les scandales de corruption politique s'accumulent en Europe. Dernier exemple en date à Malte, le Premier ministre Joseph Muscat a annoncé sa démission dimanche. Trop proche, trop lié à des hommes impliqués dans l'assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galizia. C'était il y a 2 ans. Une bombe était placée sous sa voiture alors qu'elle enquêtait sur des affaires de blanchiment d'argent. Autre pays, la Serbie, autre affaire de corruption. Elle concerne les florissantes ventes d'armes vers le Moyen-Orient. Les proches du président Vučić sont éclaboussés. La famille du ministre de l'Intérieur est également citée. Mais le seul à être réellement inquiété dans cette affaire, c'est Aleksandar Obradović, le lanceur d'alerte à l'origine des révélations que Simon Rico a rencontrées.
Fabrika vojne opreme i naoružanja iz Valjeva, Krušik.
Le scandale éclate le 10 octobre dernier quand l'un des derniers hebdomadaires d'opposition en Serbie révèle qu'un lanceur d'alerte est en prison depuis 3 semaines. Aussitôt, des manifestations s'organisent, notamment dans la ville de Valjevo, dont l'usine d'armement Krušik est le principal employeur. Pour Ljubomir Radović, l'un des meneurs de l'initiative citoyenne Lokalni Front, Aleksandar Obradović est un symbole de la dérive autoritaire en Serbie.
Cela fait maintenant 30 ans qu'on essaie de se battre pour la démocratie en Serbie. Mais désormais, on est arrivé à un point où il est possible d'emprisonner un lanceur d'alerte comme Aleksandar Obradović. Si on ne s'y oppose pas, on connaîtra bientôt tous le même sort. Voilà pourquoi nous devons le soutenir.
Le scandale est vite devenu politique, l'opposition réclamant des explications au gouvernement sur ces ventes d'armes douteuses révélées par Aleksandar Obradović. Grâce à la mobilisation, le lanceur d'alerte est libéré pour être immédiatement placé en résidence surveillée. Il gagne aussi un surnom, celui de Snowden serbe, et comme Edward Snowden, Aleksandar Obradović est considéré comme un espion par les autorités de son pays. S'il jure n'avoir fait que son devoir de citoyen, il se préparait à être mis au banc.
Je m'attendais à être arrêté, je sais bien dans quel pays nous vivons. Je m'attendais à être présenté comme un espion à la solde de l'étranger. Je n'ai pourtant jamais révélé de secret. Tous les documents sont publics. Ce qui m'impressionne, c'est comment les médias du régime s'attaquent à moi, alors que certains proches du pouvoir sont impliqués jusqu'au cou. En tout cas, les documents sont là, on verra bien ce qui se passera.
C'est une enquête publiée en septembre par le média d'investigation Arms Watch qui met le feu aux poudres et précipite l'arrestation d'Aleksandar Obradović. Le lanceur d'alerte avait pourtant déjà tout raconté un an auparavant aux médias indépendants Burn sur les ventes d'armes douteuses vers l'Arabie Saoudite. Une info sciemment oubliée par les grands médias serbes. Avant de parler aux journalistes, Aleksandar Obradović avait hésité à saisir la justice de son pays, mais personne ne voulait l'écouter.
Malheureusement, la situation est telle dans notre pays que j'ai plus confiance dans les journalistes d'investigation que dans les institutions. Puisque les hauts dirigeants de l'État sont potentiellement impliqués dans ce vaste trafic d'armes, j'ai préféré alerter d'une autre manière pour dénoncer ce qui se passait dans mon entreprise.
Si Aleksandar Obradović est aujourd'hui dans le collimateur du régime serbe, c'est parce que ces révélations mettent en cause la famille du ministre de l'Intérieur, l'un des fidèles du tout-puissant président Aleksandar Vučić. Quand celui-ci a pris le pouvoir, l'une de ses premières mesures avait été de déréguler le marché des armes, rare secteur industriel encore florissant en Serbie. Aujourd'hui, une partie de l'argent des ventes d'armes servirait à alimenter les caisses noires de son parti, le SNS, d'après l'expert militaire Aleksandar Radić.
On ne peut pas le démontrer, mais il y a beaucoup d'indices qui montrent que le SNS se finance à travers le commerce des armes. Il y a des gens proches du pouvoir qui dirigent des entreprises du secteur, comme GIM ou celle de Slobodan Tešić. À travers divers mécanismes, il y a peut-être 3, 4 ou 5 000 personnes impliquées dans les ventes d'armes qui sont directement liées au SNS.
Les révélations d'Aleksandar Obradović et d'Arms Watch n'ont pas encore fait vaciller le régime d'Aleksandar Vučić, qui contrôle toutes les institutions du pays. L'homme fort de Belgrade semble vouloir faire du lanceur d'alerte un exemple pour dissuader tous ceux qui pourraient être tentés de révéler une affaire le concernant.
En Roumanie voisine, la corruption a été au cœur de la campagne des élections présidentielles. La semaine dernière, c'est sans grande surprise le président sortant Klaus Iohannis qui en est sorti vainqueur. Une victoire qu'il doit à sa campagne anti-corruption visant explicitement sa principale adversaire du Parti social-démocrate. Les précisions de Benjamin Ribou.
Avec 63% des voix au second tour, le candidat de centre-droit Klaus Iohannis repart pour un second mandat de président en Roumanie. Pour cela, il a axé sa campagne sur le rejet de la corruption, à l'image de son slogan « Pour une Roumanie normale ». Face à lui, cible de toutes ses attaques, la candidate social-démocrate Viorica Dăncilă, avec qui il n'a même pas voulu débattre entre les deux tours. L'ancienne première ministre a pâti de la dégringolade de son camp, son score de 37% est le pire jamais obtenu par un candidat PSD au second tour d'une présidentielle. Difficile de ne pas y voir la conséquence de l'entêtement des sociaux-démocrates à vouloir mettre la main sur le système judiciaire ces trois dernières années. Après avoir limogé la chef du parquet anticorruption, ils avaient notamment tenté de faire passer un projet d'amnistie pour les politiques et de grâce pour les faits de corruption inférieurs à 44 000 euros. Acharnement qui leur a valu la colère des Roumains. Victorieux, Klaus Iohannis n'était pourtant pas le seul à faire campagne pour une Roumanie moins corrompue. Un jeune parti, l'USR, l'Union Sauver la Roumanie, lui avait emboîté le pas. En misant, lui aussi, sur le rejet du PSD et de la corruption, son candidat, Dan Barna, n'a pas su incarner une véritable alternative au président. L'USR était pourtant censé incarner un renouveau avec des membres pour la plupart novices en politique, mais il n'a guère pesé dans une campagne où toute l'attention était focalisée sur la lutte PSD-Klaus Iohannis. Sans grande nouveauté, d'après les analystes qui ont décrit une campagne pauvre en idées et prévisible. Cela ne devrait toutefois pas empêcher le thème de la corruption d'occuper le devant de la scène d'ici aux prochaines élections législatives, fin 2020.
En Slovaquie comme à Malte, c'est l'assassinat d'un journaliste qui a provoqué la démission du Premier ministre. Quelques jours après la mort de Jan Kuciak en février 2018, Robert Fico avait laissé les rênes du gouvernement à un de ses proches, mais il continue de diriger le parti au pouvoir. Bonjour Alexis Rosenzweig.
Oui, bonjour.
Alexis, vous êtes notre correspondant en Europe centrale. Cela va faire bientôt 2 ans que le journaliste Jan Kuciak et sa compagne ont été tués par balle dans leur maison. Où en est-on de l'enquête et quelles ont été jusqu'ici les retombées politiques à Bratislava?
Eh bien, malgré quelques fausses pistes et tergiversations au début, dans les semaines qui ont suivi ce double meurtre, la police slovaque est parvenue à mener, semble-t-il, une enquête efficace, de manière professionnelle. Jan Kuciak publiait ses investigations sur des affaires de corruption au plus haut sommet de l'État, et le commanditaire présumé de son assassinat, Marianne Kouchner, qu'il avait directement menacé par téléphone, avait effectivement un carnet d'adresses très fourni et un réseau politico-mafieux très puissant, un réseau révélé au public grâce à des écoutes et au contenu de son téléphone portable. Marianne Kouchner est aujourd'hui en détention ainsi que 4 autres personnes impliquées dans ce crime, un crime qui a traumatisé la Slovaquie et qui a révélé l'ampleur de la corruption dans le système judiciaire et dans des cercles très proches du pouvoir. Plusieurs proches de Robert Fico, dont le vice-président du Parlement le mois dernier, ont dû démissionner après avoir été mis en cause.
Pour autant, l'ancien Premier ministre est toujours à la manœuvre à Bratislava.
Oui, Robert Fico s'accroche tant qu'il peut. Il a déjà dirigé le gouvernement slovaque pendant 10 années, en tout, sur les 25 ans d'existence de la jeune Slovaquie indépendante. Et malgré toutes les affaires et scandales de corruption, Robert Fico tente toujours de dicter l'agenda politique. L'élection de Zuzana Čaputová à la présidence de la République avait pourtant donné un nouveau souffle à la démocratie slovaque. C'était au printemps dernier. Mais c'est bien le prochain scrutin législatif qui s'annonce crucial en Slovaquie. Un scrutin prévu fin février. Et il n'est pas exclu que Robert Fico puisse profiter du fait que les partis d'opposition ne parviennent toujours pas à former une coalition contre sa formation. Une formation pourtant affaiblie par les révélations suite à l'assassinat du journaliste.
Alexis, est-ce que l'on connaît déjà la date d'ouverture du procès des présumés assassins de Jan Kuciak et de sa compagne?
Oui, a priori, le procès devrait commencer dans 3 semaines, juste avant Noël, le 19 décembre. Un procès qui devrait durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et en attendant le verdict concernant les principaux accusés, de nouvelles informations pourraient venir animer la campagne électorale. Le Consortium international de journalisme d'investigation a en effet eu accès à l'énorme dossier d'enquête de la police slovaque. Il est en train d'éplucher les 70 téraoctets de données sur cette affaire. En attendant, eh bien, Robert Fico tente de détourner l'attention du public. Il fait campagne avec virulence sur d'autres thèmes. Il a notamment annoncé récemment qu'il voulait faire rapatrier de Londres les tonnes d'or que l'État slovaque possède là-bas, car il dit ne pas faire confiance aux Britanniques en cas de crise consécutive au Brexit.
Merci Alexis Rosenzweig, notre correspondant en Europe centrale.
À bientôt.
En Russie, le parti de Vladimir Poutine a subi une défaite significative lors des élections régionales de septembre. Des candidats libéraux ont réussi à se faire élire. Parmi eux, Daria Bessedina, une députée moscovite atypique. Elle est jeune, active sur les réseaux sociaux, où elle joue la transparence maximum. Un comportement très inhabituel en Russie. Étienne Bouche.
Sur la première photo de la session parlementaire, Daria Bessedina arbore un pullover rose et un sourire enfantin. Cette jeune femme de 31 ans a rejoint, contre toute attente, une assemblée où siègent habituellement des apparatchiks du parti Russie Unie. Daria Bessedina a été élue dans la 8e circonscription sous l'étiquette de Yabloko. Ses convictions sont celles de la gauche européenne. Daria parle d'écologie, d'acceptation de l'homosexualité et de droits de l'homme. Elle en est convaincue, ce discours, même s'il est peu fréquent en Russie, n'est pas à contre-courant.
Nous observons un recul des valeurs démocratiques. Ce mandat de député offre une tribune que l'on peut utiliser pour s'exprimer en faveur de la liberté d'expression, de la défense des minorités. Je constate que les 4 candidats de notre parti ayant participé à l'élection ont été élus. Et s'il n'y avait pas eu de violation et que les autres candidats indépendants avaient pu participer, je pense que nous aurions une Douma tout à fait différente, de sensibilité bien plus libérale.
Très active sur ses réseaux sociaux, Daria Bessedina dit vouloir rapprocher les moscovites de la politique. Elle y diffuse ses discours, détaille l'ordre du jour et explique les enjeux des discussions en cours. Une démarche de transparence très inhabituelle dans la politique russe. Pour son premier mandat, la jeune députée s'est donné pour objectif de rendre Moscou plus agréable et plus fonctionnel. Cette cycliste convaincue souhaite davantage de vélos, de transports électriques et veut diminuer le nombre de voitures dans une ville qui figure toujours parmi les plus embouteillées au monde. Mais les ambitions de l'élu, défendue dans une assemblée qui a peu l'habitude de délibérer, ne sont peut-être pas encore tout à fait concrétisées.
What does it mean to you to be the youngest Lib Dem party leader, the first woman?
I'm a feminist, so it's obviously always a joy when another glass ceiling is broken.
Au Royaume-Uni, elle souhaite faire annuler le Brexit si elle est élue. Jo Swinson, la candidate des libéraux-démocrates, est sur tous les fronts à 9 jours des élections législatives. Derrière les conservateurs et les travaillistes, les libéraux sont les seuls à faire campagne pour le maintien du pays au sein de l'Union européenne. Leur leader, Jo Swinson, est notre européenne de la semaine. Son portrait signé Béatrice Leveillé.
Les libéraux-démocrates peuvent promettre qu'ils vont stopper le Brexit et cela est synonyme d'un meilleur avenir pour notre pays.
Pour mener à bien cette campagne, la première en tant que leader de son parti, Jo Swinson a voulu casser son image trop sage. Elle est photographiée avec des gants de boxe sur un ring et le slogan « Girl is what », première de la classe, imprimé sur son t-shirt. Un message qui semble avoir fait de l'ombre à celui des libéraux-démocrates, Stop Brexit. Jo Swinson ne propose pas un deuxième référendum. Elle promet que si elle est élue Premier ministre, elle mettra aussitôt un terme au Brexit.
Je révoquerai l'article 50, c'est dans les prérogatives d'un Premier ministre et je le ferai dès mon entrée en fonction.
Pour Denis McShane, ancien ministre travailliste des Affaires européennes et auteur de Brexiternity, c'est un peu présomptueux.
J'aime bien Jo Swinson, mais franchement, elle avait les yeux plus grands que l'estomac. Elle annonce fermement, je serai élu Premier ministre et je suis tout de suite annulé le Brexit. Si elle passe d'une quinzaine des députés à 350, elle aura l'autorité de faire ce qu'elle veut. Mais ça, c'est absolument exagéré et je crains qu'elle ne va pas obtenir un très bon score.
En 2005, Jo Swinson est élue députée libérale-démocrate dans une circonscription de son Écosse natale. Elle n'a que 25 ans. On la surnomme le bébé de la Chambre des communes. Elle perd son siège en 2015, mais le retrouve en 2017. En 2019, elle est élue avec 62% des voix à la tête de son parti, le seul qui se positionne en faveur de l'Union européenne. Joss Whinson a-t-elle gâché la campagne des libéraux-démocrates ? Sophie Henn, politologue, chercheuse à l'Institut Egmont.
C'est une position qui a été adoptée collectivement à l'intérieur du Parti libéral-démocrate. Ce n'est pas Joss Whinson toute seule qui a décidé de positionner le Parti libéral-démocrate comme tentant d'arriver au pouvoir comme parti majoritaire, mais c'est sûr que ça a pu être perçu comme une posture peut-être arrogante ou à tout le moins irréaliste à partir du moment où le Parti libéral-démocrate reste un parti minoritaire avec une idéologie tout de même plus nuancée que l'idéologie travailliste ou l'idéologie conservatrice. Alors je pense que très souvent dans l'histoire de la démocratie parlementaire britannique, une grande partie des idées des libéraux-démocrates finit souvent par s'imposer dans la société civile et en politique, mais cela ne veut pas dire que c'est le parti qui en retire nécessairement un succès ou du crédit.
Il ne reste plus beaucoup de temps aux libéraux-démocrates pour convaincre les électeurs, mais le sport favori de Joss Whinson est la course à pied, et c'est dans la dernière ligne droite que tout se joue.
En Italie, après 18 mois d'enquête, la police antiterroriste a démantelé un groupuscule armé ouvertement pro-nazi et antisémite. Il est composé d'une vingtaine de personnes disséminées dans différentes régions de la péninsule. Cette opération démontre l'inquiétante dérive extrémiste dans ce pays qui a été le berceau du fascisme. Anne Lenir, vous êtes notre correspondante à Rome. Sait-on comment a débuté l'enquête ?
Oui, les policiers du département antiterroriste de la ville d'Enna, en Sicile, enquêtaient sur les coups de pistolet tirés contre un centre d'accueil de migrants en février 2018. Ils ont identifié un des responsables, un jeune de 30 ans, et en recherchant ses contacts, ils ont découvert l'existence de ce réseau. De fil en aiguille, ils sont remontés aux personnes le composant. L'un des dirigeants du réseau, fondé en 2017, n'est autre qu'un ancien légionnaire et boss de la 'Ndrangheta, la mafia calabraise, tandis que les idéologues sont deux femmes, dont une milanaise âgée de 36 ans, surnommée Miss Hitler, pour ses tatouages et ses propos particulièrement glaçants. D'après les enquêteurs, les 19 personnes mises en examen ont ces points en commun, un fanatisme violent mêlé de xénophobie, d'antisémitisme et de nostalgie du nazisme.
Et quels étaient leurs objectifs précis ?
Ce groupe était en train de créer un mouvement national dénommé Parti ouvrier national-socialiste et italien. Et il recrutait des adeptes à travers Messenger et un chat privé sur WhatsApp. L'un de leurs projets imminents était de perpétrer un attentat à Milan contre le siège de l'Association nationale des partisans italiens. Et lors des perquisitions effectuées au domicile des membres du groupe, les policiers ont trouvé une grande quantité d'explosifs et de nombreux ouvrages sur Hitler et Mussolini, ainsi que du matériel de propagande antisémite. Les enquêteurs ont également découvert que le groupe avait tenté d'établir des contacts avec des milieux néo-nazis internationaux.
Anne, une dernière question. Peut-on parler de dangereuses dérives extrémistes en Italie ?
Oui, aujourd'hui, les types de structures comme celle qui a été démantelée vont au-delà des groupes d'extrême droite qui continuent, par exemple, de célébrer la marche fasciste de 1922 sur Rome. Il y a un vent noir qui souffle avec de plus en plus d'intensité. On peut d'ailleurs rappeler le cas de la rescapée d'Auschwitz, Liliana Segre, 89 ans, nommée sénatrice à vie par le président de la République l'an dernier. Elle vit sous escorte policière depuis 3 semaines, car elle est la cible de centaines de messages de haine publiés chaque jour sur les réseaux sociaux. Alors heureusement, parmi les nouvelles générations, on constate que des mouvements comme celui des Sardines se créent justement pour lutter contre les dérives extrémistes. Mais globalement, la classe politique n'est pas suffisamment réactive.
Merci Anne Lenir. Accent d'Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission était réalisée par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur le site internet rfi.fr à la rubrique podcast Accent d'Europe. Nous sommes également sur les réseaux sociaux. À demain.